Donc, une petite précision sur le fonctionnement structurel de la censure morale en France au XXe siècle. Donc, par censure morale, j'entends la censure d'un texte jugé érotique, pornographique, obscène, libertin, léger, grivois, etc. Je ne m'arrête pas sur les différentes désignations, puisque finalement, la justice s'arrange pour ne jamais vraiment trancher. Cette censure morale, c'est une censure à deux bras au XXe siècle. Il y a tout un pôle qui est la censure administrative, où on va trouver des sanctions qui sont des interdictions de textes qui peuvent être totales, dans le cas des ouvrages étrangers, ou des interdictions le plus souvent qui sont partielles. Par exemple, on interdit un texte à la vente aux mineurs, on interdit un texte, l'exposition d'un texte, on interdit sa publicité. D'un autre côté, on va trouver la censure judiciaire, donc les sanctions judiciaires, les poursuites, les condamnations, qui mènent, quant à elles, à la supposée disparition du texte, puisque la destruction des stocks est ordonnée, et puis, évidemment, s'accompagnant d'amendes, de peines de prison et de fermeture temporaire ou définitive d'activité. Donc on a ces deux bras-là. Le premier bras administratif est encore tout à fait en course aujourd'hui. Hein. C'est principalement la loi de juillet 49 qui est encore en vigueur en France. En revanche, du côté des sanctions judiciaires, le délit dit d'outrage aux bonnes mœurs, qui fait son apparition en 1871, disparaît en 1994. Il n'existe plus aujourd'hui. Et il est remplacé par le délit de contenu pédopornographique. Il a évolué. Dans cette intervention, je vais me centrer sur le pôle judiciaire, pour des raisons de temps, et plus particulièrement dans les poursuites pour outrage aux bonnes mœurs. J'avais envie de m'intéresser à une commission qui s'appelle la Commission spéciale du livre, qui est créée en 1939 et qui, pendant 30 ans, sa dernière réunion date de 1969, qui pendant 30 ans va formuler des avis, plus d'un millier, des avis favorables ou défavorables à des poursuites pour outrage aux bonnes mœurs. Donc le corpus des avis, je suis trop près. Le corpus des avis de cette commission constitue le cœur de cette intervention. Donc, depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le livre bénéficie, dans le domaine de la censure morale, d'un régime particulier qui est plus favorable que celui qui encadre la presse. Quand il est commis par la voie du livre, le délit dit d'outrage aux bonnes mœurs est puni d'une amende moins élevée. Et surtout, son appréciation est confiée à un jury populaire et non à un tribunal correctionnel. La correctionnelle, qui garantit dans ce domaine une répression rapide, prévisible et plus rigoureuse, est réservée à la presse et donc aux publications périodiques. Le livre est, au-delà du support matériel, la littérature, puisque la justice va assimiler les deux concepts, bénéficie alors d'une certaine protection, et c'est une situation qui va perdurer jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il faut garder à l'esprit qu'à la fin du XIXe siècle, le passage en correctionnel des Fleurs du Mal et de Madame Bovary en 1857 occupe encore largement la mémoire collective. Un quart de siècle plus tard, ce double procès, on l'a dit ce matin, qui était en réalité triple, avec les mystères de Paris, demeure un traumatisme profond qui suscite la gêne et le malaise. Il restera d'ailleurs tout au long du siècle suivant une référence incontournable, une sorte de honte nationale, finalement lavée en 1949, année au cours de laquelle la Cour de cassation annule la condamnation de Baudelaire et de ses éditeurs. La première partie du XXe siècle est une parenthèse dorée en France pour le livre dit « immoral, léger, érotique ». Entre 1915 et 1939, aucun livre n'est condamné en France pour outrage aux bonnes mœurs, faisant de Paris la capitale mondiale de l'édition de littérature érotique, après Bruxelles, Londres et Amsterdam. Les parquets reculent devant la perspective de la cour d'assises, et on peut les comprendre. L'appréciation du délit est particulièrement délicate. Entre 1871 et 1994, jamais le délit d'outrage aux bonnes mœurs n'a été défini. Par ailleurs, la procédure est compliquée, l'issue très incertaine et bien sûr le ridicule assuré en cas de bavure à la Pinard. Mieux vaut alors, dans la France de la première partie du XXe siècle, passer pour libéral que pour béotien. Et mieux vaut outrager les mœurs que la littérature. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la législation française va connaître une évolution brutale. À compter du 29 juillet 1939, l'outrage aux bonnes mœurs ne relève plus des lois sur la presse, mais des mesures censées assurer la protection de la race, nous dit la loi. Sa répression est à la fois durcie, amende plus lourde, saisie préventive autorisée et élargie. Pour la première fois depuis le Second Empire, le livre va retrouver le chemin de la correctionnelle. L'exception livresque et littéraire, encore une fois, support et contenu se trouvent fondus, n'a plus cours. Le temps est venu pour la littérature de rendre, elle aussi, des comptes, et la désignation générale dans la loi d'imprimé vient liquider un régime discriminant favorable au livre. Cette nouvelle donne ne suscite pas de fortes réticences en 1939. Elle est même le fruit d'un puissant consensus parlementaire. Au Sénat, la correctionnalisation de l'outrage aux mœurs commis par la voie du livre est applaudie. Et son unique adversaire, déclaré, d'ailleurs peu convaincu lui-même, est raillé. Des exclamations et des rires fusent, je vous laisse en prendre connaissance, au moment précis où Pierre Chaumier, donc qui est le rapporteur du projet de loi, évoque le respect dû au travail sérieux de l'écrivain. À quelques mois de l'entrée en guerre, c'est bien la logique réactionnaire qui emporte la partie. Au printemps 1939, la France ne peut plus se permettre d'être ce mouton noir européen, décadent, laxiste, une sorte de catastrophe morale et démographique parée pour la défaite. Le discours tenu par les associations de moralité depuis 1918 parvient enfin à convaincre et à fédérer. Il est frappant de voir, dans ces débats parlementaires, à quel point le regard sur les procès légendaires de Baudelaire et de Flaubert a changé, et combien l'exception littéraire a perdu de sa superbe. Lisons ensemble, donc nous sommes toujours fin mars 1939 au Sénat. Le sénateur Charles-François Saint-Maur, porte-voix des cartels de moralité, défend la correctionnalisation de l'outrage aux bonnes mœurs par la voie du livre. Donc, il nous dit, je mets les pieds dans le plat. Je ne crois pas pertinent le rappel des procès anciens de Baudelaire et de Madame Bovary. Nous avons fait du chemin depuis. Et si vous envoyez l'auteur d'un livre devant la cour d'assises, c'est avec la pensée qu'il ne sera jamais condamné. Voilà la vérité. Applaudissements. Délogé de son piédestal, le livre hérite cependant d'une sorte de garantie. Pour lui, et pour lui seul, par opposition à la presse, les parquets devront prendre l'avis d'une commission spéciale intégrant dans ses rangs un représentant de la Société des gens de lettres de France. Fondée en 1838, la Société des gens de lettres bénéficie à la fin des années 30 d'un crédit important. Plus de 1000 sociétaires, environ 3600 adhérents, elle s'est investie sur de nombreux débats agitant le monde du livre dans l'entre-deux-guerres. Il s'agit d'une association plutôt conservatrice. Dans l'entre-deux-guerres, par exemple, elle n'hésite pas à s'élever fermement contre les dérives et les surenchères de la littérature qu'elle appelle la littérature racoleuse des années folles. Par exemple, elle botte magistralement en touche dans l'affaire de la Garçonne de Victor Marguerite. Victor Marguerite était un des présidents honoraires de la Société des gens de lettres. On lui retire sa Légion d'honneur et il appelle la Société des gens de lettres à la rescousse. Société des gens de lettres qui se gardera bien d'intervenir, argumentant que la liberté de l'écrivain n'est pas touchée ici, mais juste la Légion d'honneur. Et Marguerite finira par claquer violemment la porte de l'association. Plutôt conservatrice, je nuance, la Société des gens de lettres se garde bien d'apporter son concours officiel aux réflexions sur la censure. Alors qu'elle est courtisée par le ministère de l'Intérieur, alors qu'elle est courtisée par les associations de moralité, elle s'obstine à rester hors du jeu. En 1924, par exemple, son comité déclare qu'il n'appartient pas à des écrivains, je cite, « quel que soit leur dégoût de la pornographie, de prendre l'initiative de nouvelles lois répressives et de nouveaux modes de répression ». Un an plus tard, le même comité affirme, je cite, « sa volonté de ne pas se prononcer sur la question des pénalités en matière de pornographie ». Ni dans un camp, ni dans un autre, la Société des gens de lettres va être extrêmement surprise quand, en 1939, elle découvre la réforme et la correctionnalisation du délit d'outrage aux mœurs par la voie du livre. Sa réaction première, c'est d'être absolument horrifiée. Le comité évoque, je cite, « une véritable révolution juridique, inacceptable pour les écrivains », et son président met en garde le reste du groupe quant à, je cite, « la responsabilité historique qu'assumerait la société en acceptant cette correctionnalisation ». Mais il est trop tard, l'association parvient juste à négocier in extremis sa participation à une commission spéciale du livre, chargée donc d'examiner les livres suspectés d'outrager les bonnes mœurs. Alors, siégeant aux côtés de magistrats, en fait, la commission spéciale du livre comprend 7 membres, magistrats, représentants d'associations de moralité et donc un membre de la Société des gens de lettres. On a un revirement à 180 degrés en 1939-40, puisqu'après avoir ferraillé contre cette idée d'une nouvelle censure du livre, la Société des gens de lettres va finalement se rallier à la cause et se jeter corps et âme dans cette nouvelle mission. Alors nous sommes en 1940, en même temps les choses ont changé, la guerre est passée par là, Assemblée générale de la société et Hugues Lappert, vice-président, s'exprime ainsi. Nous ne voulons pas revoir d'absurdes procès comme ceux intentés à Madame Bovary et aux Fleurs du Mal, ni réentendre une exclamation comme celle de Flaubert à propos d'une nouvelle de Maupassant menacée de poursuite. En quelle béotie vivons-nous ? Ce qui est vrai et beau n'outrage pas la morale. Le véritable écrivain, qui a le culte de son art, a conscience de l'œuvre qu'il crée. Mais ce véritable écrivain, justement, comment le reconnaître et comment distinguer l'art, en majuscule, attention, de ses détestables et condamnables contrefaçons ? C'est précisément à cette question que la Société des gens de lettres, et avec elle la commission spéciale du livre tout entière, va s'atteler pendant 30 ans. Et le sujet a son importance, puisqu'entre 1940 et 1969, la commission va examiner plus d'un millier d'ouvrages et recommander des poursuites en correctionnel pour 950 d'entre eux. Un avis que le parquet suivra dans plus de 95% des cas, avec de manière quasi systématique une condamnation à la clé. Donc vous voyez, le système de déperdition est finalement très faible. Entre les livres qui arrivent à la commission et les livres qui sont in fine condamnés, il y a 4 filtres et finalement on a une déperdition de moins de 10%. Alors qu'est-ce qui est ou qui n'est pas de la littérature ? Qu'est-ce qui est finalement suffisamment de la littérature ? Et comment évaluer et fixer une sorte de seuil de littérarité au-delà duquel l'esthétique l'emporterait sur la morale ? Alors les premiers avis de la commission spéciale traduisent purement et simplement une opposition et même une incompatibilité entre évocation de la sexualité et littérature. Cet antagonisme se lit dans le tout premier rapport de Pierre Descaves, porte-voix de la Société des gens de lettres pendant 30 ans. Au passage, ironie de l'histoire, Pierre Descaves, qui représentera la Société des gens de lettres à la commission, est le fils de Lucien Descaves, qui avait été lui-même condamné pour outrage aux bonnes mœurs pour sous-offre. Une bien belle façon de couper l'héritage paternel. Donc à propos de l'ouvrage, je ne sais pas si... Non, on ne voit rien du tout. À propos de l'ouvrage, oui, parce qu'ils écrivent de manière extrêmement belle, mais difficile à déchiffrer. À propos de l'ouvrage « Moi qui ne suis qu'amour » de Dominique Rollin, publié chez De Noël en 49. Pierre Descaves estime, je cite, que les qualités littéraires intrinsèques du livre l'emportent sur l'évocation ou la transcription de certains transports physiques. Il y a donc concurrence, compétition entre les deux pôles. Les passages licencieux du livre sont rendus, je cite, dans une certaine mesure tolérables, sinon acceptables, par l'artifice littéraire. Cet avis fixe les bases de ce qui s'imposera comme un des points forts de l'argumentation de la commission spéciale du livre. Loin de se conjuguer, le littéraire et l'érotique se détruisent l'un l'autre. Ils sont incompatibles. Et la scène érotique est perçue comme un accident, comme une excroissance malencontreuse du récit. En gros, moins il y en a, mieux on se porte. Et finalement, les ellipses, les périphrases sont là pour ça. Si la teneur littéraire est jugée suffisante, si le taux de littérature est assez élevé, pourrait-on dire, la commission spéciale peut émettre, c'est très rare, une recommandation de clémence. C'est le cas pour l'ouvrage de Dominique Rollin au printemps 49 et quelques mois plus tard pour un autre ouvrage, Jacques Forageol de Maurice Siontard. Alors Pierre Descaves et avec lui la commission conclut, je cite, que les pages osées, assez réduites en nombre, sont rendues dans une certaine mesure tolérables, sinon acceptables par l'artifice littéraire, et que par conséquent, on ne se trouve pas en présence d'un roman pornographique caractérisé, voulu ou prémédité. Alors on le voit bien, c'est la reprise quasiment mot pour mot de l'argumentaire de Moi qui ne suis qu'amour, et cet avis sera décliné des dizaines de fois dans les mois et les années qui suivent, la commission ayant tendance très rapidement à figer ses formulations avant de ne même plus détailler les motifs de ces recommandations au tournant des années 60. Puisque, je ne rentrerai pas là-dedans, mais à la fin des années 50, le procès Sade, qui est le grand procès des années 50, donne raison à l'éditeur en appel. Et dans le jugement est évoquée une défaillance de la commission spéciale du livre. Enfin, il s'était réunis alors qu'il en manquait un et normalement il fallait que tout le monde soit là. Bref, la commission spéciale du livre va être rappelée à l'ordre à la fin des années 50 et ne va plus trop détailler, va se contenter de dire ça passe, ça passe pas. Au critère du style désigné comme artifice littéraire par la commission se superposent diverses considérations paralittéraires, les commissaires cherchant à évaluer plus largement l'inscription de l'œuvre et de son auteur dans le champ littéraire. Dans le cas de Moi qui ne suis qu'amour, l'avis précise ainsi, je cite, qu'il s'agit du quatrième roman d'une jeune romancière dont les précédentes œuvres ont été favorablement accueillies, que l'auteur, je cite, a des mérites littéraires reconnus par la critique et que le livre a obtenu plusieurs voix au prix Renaudot. S'ajoute également la notion de patronage, terme très important pour la commission, quand elle examine des ouvrages et des auteurs dits classiques. Un exemple, l'ouvrage Les Aventures Galantes, qui réunit des extraits de Sade, de Brantôme, de Casanova, est ainsi jugé tolérable par la commission qui estime, je cite, que si pernicieuse que puisse être la diffusion des textes publiés, et si répréhensible que soit le caractère commercial donné à la publication du livre, le patronage sous lequel celui-ci est présenté rendrait des poursuites inopportunes. Mais ce patronage se révèle un critère glissant et finalement complètement contre-productif, puisque les commissaires vont vite se rendre compte que les textes érotiques dits classiques sont souvent les plus audacieux. Et dès le début des années 50, les commissaires font machine arrière, notant par exemple à propos des exploits d'un jeune Don Juan, d'Apollinaire, que, je cite, « quel que soit le nom dont elles sont signées, ces 115 pages d'obscénité sont sans excuse et ne peuvent prétendre à une valeur littéraire, même pour des esprits curieux. » Le patronage littéraire ne sauvera pas les œuvres de Sade, du moins pas en première instance, ni les mémoires de Fanny Hill, ni Gamiani, ni les œuvres de Pierre-Louis, ni même les œuvres de Verlaine au début des années 60. Donc on le voit, la commission spéciale est à la peine pour définir l'œuvre suffisamment littéraire pour être disculpée. Et l'évaluation qualitative se réduit bien souvent à une appréciation quantitative, combien de scènes sexuelles, combien de pages érotiques, aidée en cela par la police qui prend soin dans ses rapports de souligner, d'envoyer les livres avec déjà souligné ou encadré les passages qui pourraient poser problème. Ou un jugement par la négative. Il semble en effet moins difficile de reconnaître ce qui n'est pas de la littérature et ce que la littérature n'est pas, ou en tout cas ne doit pas être. Pour les commissaires, la littérature ne peut pas être un discours explicite sur le sexe. Désignation crue, description sans filtre, sont immédiatement caractérisées comme relevant de l'obscénité, de l'évidence sexuelle, et motivent automatiquement des recommandations de poursuite. Autre certitude, la littérature ne doit pas rechercher le profit. Cette incompatibilité apparaît pour la première fois dans la jurisprudence de la Commission en 1950, lors de l'examen du Festin des Charognes, publié au Scorpion. C'est d'ailleurs la Maison du Scorpion qui va cristalliser cet argumentaire du profit, puisque avec « J'irai cracher sur vos tombes » et les retombées financières pour Dalloin et pour Vian, va se dessiner tout l'imaginaire du pornographe richissime et corrupteur. Voilà l'avis de la Commission à propos de ce livre publié au Scorpion. Ce livre n'appartient en aucune façon au domaine de la littérature, mais révèle la recherche d'un but pornographique et purement commercial. La pornographie est donc assimilée à une prostitution de la plume, renouant avec une étymologie que je choisis de renverser. La dénonciation des profits de l'édition érotique n'est pas du tout nouvelle. Elle fédère les attaques de tous bords depuis la fin du XIXe siècle. On la retrouve dans l'entre-deux-guerres, dans les accusations antisémites de l'abbé Bethlehem et dans les alarmes des ligues de moralité sur les premières librairies spécialisées qui sont finalement les premiers sex-shops. C'est ce même reproche de l'argent du vice qui sous-tend le combat moralisateur du PCF à la Libération et qui se manifeste encore après 68 dans la dénonciation marxiste de la sexualité marchande. Dès 49, émettant près de 120 avis de poursuite en une année seulement, la Commission élabore sa grille d'interprétation qui restera finalement intangible jusqu'à la fin des années 60. Elle se donne pour mission de débusquer, de censurer les imposteurs et les faux monnayeurs du style, et c'est bien, au fond, une mission d'épuration. La répugnance à considérer le livre érotique en tant que genre, comme partie intégrante de la littérature, est traduite par l'emploi constant de guillemets. Dans les avis, les commissaires parlent de livres, de littérature, de récits, de romans, même d'écrivains avec des guillemets, avec une réticence évidente. Et aux belles heures de l'édition populaire, et alors que les collections de poche se multiplient, le principe sériel, les héros récurrents, les couvertures standardisées viennent appuyer et conforter la condamnation morale et esthétique des commissaires. Ceci n'est pas de la littérature. La commission se réunit pour la dernière fois le 12 décembre 69, recommandant de poursuivre 11 ouvrages pour outrage aux bonnes mœurs. Elle se montre cependant indécise lors de l'examen, et je finirai là-dessus, de l'ouvrage « Une fille à marier », roman publié au Mercure de France quelques mois plus tôt. On est en 1969. Cet avis me semble offrir peut-être une ou plusieurs nouvelles pistes de réflexion. L'avis est un avis de touche. La commission botte en touche puisque, regardez le dernier paragraphe, avis très réservé sur les poursuites en laissant le soin à monsieur le garde des Sceaux de décider de la suite qu'il convient de réserver à cette publication. Au passage, là, c'est un peu un acte de mégalomanie parce que la commission est consultative, elle ne décide de rien. Donc, de toute façon, in fine, la décision ne lui appartient pas. Mais regardons le paragraphe, l'avant-dernier paragraphe. « Attendu que cet ouvrage ait d'une réelle valeur littéraire, argument du style, que certes, certains passages peuvent être considérés comme offensants pour les bonnes mœurs, mais qu'il y a lieu d'observer qu'il s'insère dans un texte d'une lecture ardue. » Alors on voit bien la mention d'autre chose que le style avec cette référence à un texte d'une lecture ardue. Finalement, à la qualité de l'écrivain répond ici, en quelque sorte, la qualité d'un lecteur idéal, suffisamment cultivé, suffisamment éduqué pour comprendre le roman et pour le lire des deux mains, dans une relation toute platonique au texte et à la littérature.